Voilà, donc si Morvandio, donc de toute façon il y aura une introduction qui sera différente de celle-là, surtout que j'aurai plus de rhume. Mais donc si tu peux commencer un peu par nous parler plutôt des origines, donc par où tu as commencé, où est-ce que tu as éventuellement commencé à éditer, qu'est-ce qui a fait que tu as commencé à justement faire de la bande dessinée et tout ça.
Alors le fait que j'ai commencé à faire de la bande dessinée, c'est assez simple en fait, j'ai toujours... Je me suis pas arrêté de dessiner parce que mon frère, mon grand frère, qui s'appelle Tiny Tok, est lui-même auteur de bande dessinée. Et que donc je voyais quelqu'un devant moi qui dessinait, c'était quelque chose d'assez valorisé par mes parents. Mm-hmm. Et donc à l'âge où les enfants sains d'esprit arrêtent de dessiner, moi j'ai continué. Sans avoir. Je parle assez fort là. Sans avoir particulièrement de validité par rapport à la bande dessinée en particulier, mais en tout cas j'ai toujours une pratique du dessin.
Okay.
J'ai pris des cours et tout ça en plus de l'école. J'ai fait de la peinture à l'huile, ce genre de truc. Et puis ensuite quand j'ai...
Est-ce que tu étais bon à l'école?
En dessin tu veux dire?
Ouais.
Je me débrouillais pas mal, mais j'ai aussi toujours eu conscience que j'étais pas un énorme virtuose.
D'accord.
J'en ai eu d'autant plus conscience que j'ai été assez rapidement rencontré un ami au collège qui lui dessinait très très, très très bien, avec qui qui lui a arrêté de dessiner pendant un certain temps et avec qui on a travaillé là sur un livre qui sort chez les Requins Marteaux, qui lui a une vraie virtuosité tout ça. Mais bon, en tout cas c'est vraiment quelque chose, le dessin avec lequel je me suis construit aussi quand j'étais gamin, quand j'étais ado, etc., qui me faisait partie de mon parcours. Je passe rapidement sur ma période d'études qui de toute façon fut assez courte. Mais bon bref, assez rapidement j'ai abandonné les études que j'avais entamées aux Arts Déco de Strasbourg pour faire du fanzine, parce que ça me semblait beaucoup plus intéressant. Mmh. Et que voilà, le système scolaire, j'avais eu ma dose, donc école d'art ou pas, j'avais envie d'arrêter ça quoi. Donc assez rapidement j'ai commencé à faire du fanzine avec des copains comme de coutume. Et puis donc ça c'était en 93. Sachant que j'avais déjà fait un peu participé à des fanzines auparavant, notamment avec mon frère, plus des fanzines, j'avais fait quelques illustrations, ce genre de choses. Fanzines de nouvelles, genre de... Et donc là en 93, avec notamment ce copain que j'évoquais, là, on a créé un fanzine qui s'appelait Kalemia sur le Tanganyika, parce qu'on a un nom très simple et très vendeur. Mmh. Et puis c'est avec ce fanzine là qu'on a fait pendant 3 ou 4 ans, on a fait une dizaine de numéros quoi. Et donc là, on a commencé à faire des festivals, donc notamment à Angoulême, s'apercevoir qu'il y avait d'autres gens qui faisaient la même chose.
Et sous quel nom?
Moi, tu veux dire?
Oui.
Alors moi, c'était déjà Morvandio.
D'accord.
Enfin, j'avais d'autres pseudos à l'intérieur du fanzine, mais c'est celui-là que j'ai gardé, le principal. Et donc, en parallèle de ça... Donc il fallait aussi que je croûte, donc j'ai fait à la fois des boulots à la con, j'ai fait mon service aussi. Mmh. Donc moi j'étais objecteur pendant 2 ans, donc je bossais avec des gamins et en parallèle je continuais à faire du fanzine. J'avais trouvé une structure intelligente à qui j'avais négocié le fait d'avoir une certaine masse de travail à faire mais pas de temps donné, donc je faisais ce travail-là dans le temps que je voulais, puis le reste du temps était libre. Donc je pouvais me consacrer au fanzine, à toutes ces publications. Et en même temps, parallèlement à ça, sous l'encouragement de certains amis, à un moment j'ai démarché la presse. Et en fait, espèce de coup de bol, mon premier démarchage a été fructueux parce que j'ai commencé à bosser en 96 à publier dans les Inroc. Donc première publication rémunérée, pas très bien d'ailleurs, mais voilà, là j'ai commencé à faire un strip, chaque semaine dans le courrier des lecteurs, bosser pendant un an avec eux. Puis voilà, j'ai commencé à entreprendre aussi en parallèle des différentes publications auxquelles je collaborais dans le milieu alternatif. Donc sachant que ce fanzine, ces festivals m'ont amené à rencontrer les gens qui faisaient Jade, plein d'autres fanzines, plus tard les gens qui faisaient Ferraille. Tout ça était mené de front un peu. Et donc je me suis professionnalisé d'un point de vue financier, au fur et à mesure je commençais à gagner un peu d'argent avec ça, même si c'était pas monstrueux. Et puis donc je commençais à faire des livres aussi. Mmh. Alors en parallèle de tout ça, non, c'est lié, c'est-à-dire que assez rapidement j'ai rencontré les gens qui, un couple qui venait de s'installer sur Rennes, qui avait le projet de monter un magazine qui était le futur magazine L'Œil Électrique, avec qui j'ai sympathisé assez rapidement. Je suis devenu un peu le troisième larron de l'histoire. Donc là, qui était un magazine pas du tout spécifique à la bande dessinée, qui parlait de choses et d'autres, mais moi ça me convenait très bien. Et puis, par contre, ce magazine a été un super moyen pour moi de faire des interviews en tant qu'intervieweur et de rencontrer plein d'auteurs dont j'aimais le travail. Donc ça, c'était une super porte d'entrée pour découvrir plein de gens, Willem, Yves Gott, Rabaté, même interviewé Robert Crumb, enfin voilà. Donc c'était plutôt formateur de ce point de vue-là aussi, tout en continuant en ayant ma production personnelle en parallèle. Donc en particulier avec les Roques à Marteau. Pour continuer chronologiquement, à un moment je me suis retrouvé salarié de l'électrique, sur une partie administrative, qui a été un aspect aussi qui m'intéressait en termes de structure, réfléchir à comment fonctionne une structure, comment la finance, comment on se situe à la fois politiquement et esthétiquement, comment est-ce qu'on fait, on essaye en tout cas de faire cohabiter tout ça, toutes ces questions-là d'indépendance, d'aller sur des projets qui sont personnels mais qui nous semblent dépasser notre simple petite personne. Donc ça c'était une période assez fructueuse en termes de formation et d'apprentissage. Il se trouve que alors que j'étais encore salarié de L'Œil Électrique, j'ai eu l'opportunité, enfin j'ai essayé de faire une interview de Willem en fait, que j'avais sollicité par téléphone, mais qui est quelqu'un qu'un taiseux comme on dit chez nous en Bretagne, quelqu'un qui parle pas beaucoup et qui m'a... Enfin bon bref, du coup l'interview n'a pas eu lieu, mais enfin pas tout de suite, je lui ai proposé en fait de faire une expo qui a été acceptée à ma grande surprise. Je suis allé un peu au culot, assez rapidement, je suis allé un peu au culot la proposer au centre d'art municipal de Rennes où j'habite pour faire une expo, et alors je m'attendais à devoir soit me faire refouler, soit devoir convaincre le responsable qui venait d'arriver. Au bout d'un quart d'heure il m'a dit bah ok, on fait l'expo, et voilà. Et comme il y avait d'autres gens sur Rennes, il y a beaucoup de gens qui font des choses que non, je connaissais parce que c'est une petite ville, je les ai sollicités. Ils avaient déjà eux-mêmes organisé un événement 2 ans auparavant, un petit micro-événement autour de la bande dessinée et de la musique alternative. Et donc, ayant l'opportunité d'être dans un lieu municipal avec une logistique, des moyens, une visibilité assez forte, j'ai re-sollicité tous ces gens-là en disant peut-être qu'on peut monter un événement où il y aurait l'Expo Willem, mais il y aurait aussi d'autres choses. Présenter d'autres expos ailleurs en ville, en prenant le contre-pied de tous les festivals qui existent, ou de la plupart, c'est-à-dire pas de dédicaces, tout gratuit, et ça dure tout. Un truc sur une durée assez longue plutôt que seulement sur un week-end.
Donc ça c'est la préhistoire de Périscopage.
Ça c'est la première édition de Périscopage en fait, donc c'est en 2001.
Ok. Et donc t'es comme ça tu peux boire une gorgée de bière pendant que je parle 3 secondes. Donc toi tu es une des pierres angulaires de ce festival.
Ouais.
De Périscopage, tu peux nous en toucher un mot.
C'est-à-dire que c'est un festival comme je viens de le décrire qui se caractérise par le fait de s'intéresser en particulier. Le sous-titre de ce festival, c'est la rencontre de la bande dessinée d'auteurs et de l'édition indépendante. C'est-à-dire que bon, déjà ça situe assez la chose, mais tout en étant très axé sur la création alternative, on a quand même une porte ouverte parce qu'il y a aussi, nous semble aussi qu'il y a des auteurs intéressants chez des éditeurs plus commerciaux, plus traditionnels. Donc on ne se ferme pas la porte non plus à inviter des gens. Et puis bon, les choses sont assez poreuses, il y a des gens qui sont aussi à la fois dans le circuit alternatif et qui publient par ailleurs chez Delcourt, chez Dargo, etc. Donc voilà, c'est vraiment axé là-dessus, avec un souci d'essayer de réfléchir à qu'est-ce que c'est de faire une expo de bande dessinée, qui n'est pas un médium par essence qui est fait pour ça. Donc c'est des soucis qui recoupent les soucis des éditeurs, c'est-à-dire des éditeurs alternatifs, c'est-à-dire la question du patrimoine et de l'histoire de la bande dessinée, est-ce que ça disparaît, qu'est-ce qu'on en fait, la question de l'expérimentation, et puis la troisième que j'oublie évidemment, la question aussi de théorique critique qui nous semble vraiment aller de front avec tout ça, enfin, c'est-à-dire le fait de partager le même constat qu'il y a un déficit critique et qui reste quand même très 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 fort. Voilà, j'ai essayé modestement d'apporter une contribution à ça en organisant justement, plutôt qu'un événement commercial, une foire, quelque chose qui soit un événement culturel autour de la création, quoi. et avec évidemment des passerelles assez fortes vers d'autres domaines, le théâtre, la musique, le, voilà.
Donc ça s'organise en deux temps, c'est ça? Il y a les assises d'une part, et il y a c'est quoi, les expositions?
Alors il y a trois semaines d'exposition, ouais. Donc qui sont un peu réparties dans toute la ville de Rennes, dans différents endroits, là aussi avec le souci de... C'est à la fois très pragmatique et très, très revendiqué, c'est-à-dire qu'on bosse à la fois avec des lieux très institutionnels et dans des trucs hyper alternatifs, dans des petites galeries, enfin voilà, c'est assez mélangé. On a eu souvent là aussi des choses dans les bars, voilà. Après c'est... Ça dépend. En termes d'expo, on essayait quand même de réfléchir à des lieux qui valorisent le travail. Et donc ces expos durent 3 semaines, sont complètement gratuites, et ces 3 semaines sont rythmées par différents événements. Généralement un gros week-end d'inauguration et une semaine effectivement d'assises, les assises de la bande dessinée indépendante, parce qu'on a appelé comme ça, qui sont donc une semaine de rencontres, de discussions thématiques,
de débats,
de conférences, de débats. Ouais.
Ok. Bien. Et alors pour en revenir alors plus à toi, c'est quoi un peu tes publications majeures? T'es beaucoup chez les Requins Marteaux. Il y a d'Algérie aussi, enfin qui m'intéresse plus par rapport au travail que tu as pu faire après, donc c'est-à-dire aux rencontres avec des classes, etc. Donc ça c'est intéressant, ça a un côté un peu plus politique, entre guillemets, si je puis dire. Enfin, tu peux nous parler de ça un peu
Alors oui, j'ai une part de mon travail qui est orientée vers quelque chose plutôt humoristique, pour aller vite. Et effectivement, ce bouquin d'Algérie qui se démarque un peu du reste en termes de tonalité, qui est un livre que j'ai fait avec...
Pour la part humoristique, c'est les titres des albums, c'est...
Mémoire d'un commercial, et puis la suite, là, puisqu'on enregistre là au mois de janvier, mais d'ici là sera paru Les Affaires reprennent, avec le même personnage. Personnage de commercial alcoolique, espèce de récit initiatique dans le monde des VRP.
Au Requin Marteau.
Chez les Requins Marteau, voilà.
D'accord.
En tout cas, à chaque fois que je travaille sur un livre, c'est vraiment dans l'idée de... c'est-à-dire que j'ai complètement évacué l'enjeu financier, parce que maintenant je vis de mon travail de dessinateur de presse. Donc sur la bande dessinée, si je gagne de l'argent, tant mieux, mais généralement ça n'arrive pas et je n'ai aucune pression de ce côté-là. Donc je travaille vraiment avec qui j'ai envie sur les projets qui me plaisent. En gros, c'est ça.
Donc d'Algérie alors, ça
s'est... Et donc d'Algérie, c'est un peu particulier, ça s'est fait avec une maison d'édition qui s'appelle Home Cooking Books, qui en fait descend directement de l'œil électrique, puisque c'est une des fondatrices de l'œil électrique qui a créé cette maison d'édition. Donc quelqu'un que je connais très bien et qui j'ai le plaisir à travailler sur le questionnement de fond et sur la réflexion sur l'objet livre. Et donc il y a vraiment pour le coup une petite structure. Donc effectivement j'ai été amené à travailler sur le... Donc pas sur le travail de diffusion, mais sur le travail de ce qu'on peut appeler la surdiffusion. C'est-à-dire suite à la sortie de ce livre qui est consacré donc à l'histoire de la... Pour aller très vite, l'histoire de la colonisation française en Algérie par le prisme de mon histoire familiale. C'est un livre qui a suscité du coup beaucoup d'envie de rencontre, de questionnement des lecteurs que j'ai pu... Et donc l'idée c'était aussi de réfléchir à comment faire vivre un livre tout simplement, c'est-à-dire hors de la logique de l'office qui dure 3 semaines dans le meilleur des cas.
En dehors de son casier chez les libraires, qui disparaît après X semaines parce qu'il est remplacé par d'autres nouveautés, etc. Quelle vie il peut avoir après, quoi.
Voilà, oui. Alors j'avais pas d'ailleurs pensé forcément aussi de manière aussi consciente et stratégique en amont, mais de fait, comme c'est un bouquin qui son thème suscite pas mal de questions, de réactions, bah, c'est faciliter les choses. Il se trouve qu'en plus en cours de réalisation du livre, on a été sollicité pour la réalisation d'un documentaire qui était consacré, donc ça, c'est quelque chose qui s'est faite. Donc a donné un film qui s'appelle Algérie intime au pluriel, qui a été réalisé par une réalisatrice qui s'appelle Nathalie Marco, et donc qui d'une part était intéressant à faire, parce que c'était pas titre personnel, c'était une expérience intéressante de se retrouver avec une équipe pour un tournage. Et puis évidemment qui a aussi enrichi toutes ces discussions et ces rencontres que j'ai pu avoir dans différents lieux, des librairies, des écoles, des médiathèques.
Donc c'est un film qui a été tiré du livre ou qui, alors qui c'est, s'est fait en parallèle ou,
Il s'est fait après, il s'est réalisé après. Le livre il est sorti en fin 2007, donc ça fait déjà deux ans, plus de deux ans. Et le film a dû se réaliser l'été d'après.
D'accord.
Et donc c'est vraiment un documentaire avec le point de vue de la réalisatrice qui en l'occurrence a vraiment axé ça sur le... Donc il dure une trentaine de minutes et c'est vraiment axé sur la relation avec mon père. Et donc elle, pour le coup, elle a choisi un parti pris plutôt intéressant, je trouve, d'évacuer de l'aspect historique des choses. Voilà, pour, en revenant plus aux problématiques d'héritage, de l'identité, etc. Qui est un peu transversal effectivement au livre.
Et donc ça sont des questions quand par exemple tu vas dans une classe... C'est les questions qui sont abordées par les élèves. Hein, comment est-ce que ça se passe? Ça doit pas être parce qu'il y a à la fois, comme tu dis, l'aspect historique plus de la colonisation, etc. Et puis la relation plus intime, histoire avec ton père, etc. Enfin, ça traite un peu des deux comme ça. C'est comment ça se passe comme ça quand tu vas dans une classe?
Comment c'est perçu?
L'adolescent, qu'est-ce que
alors ils réagissent? C'est un livre qui est assez dense. Donc il y a plusieurs fois, encore récemment ça m'est arrivé, les enseignants sont un peu découragés. Là j'ai été sollicité par un prof qui était, enfin un ou une prof d'ailleurs, je ne sais pas, parce que enfin bon, peu importe, un enseignant qui était prof en seconde, donc à des élèves qui ont 15 ou 16 ans. Ça lui semblait difficile d'aborder ça et je trouve ça dommage, mais je comprends en même temps pourquoi. C'est-à-dire que j'ai vraiment voulu faire un livre très dense, qui demande un vrai effort du lecteur. Et du coup, c'est souvent par le prisme de l'histoire, d'abord, qu'on vient en parler, en tout cas dans le cadre des écoles. Après, si par exemple on travaille avec le film, là les gens, les questions sont souvent est-ce que c'était compliqué de parler de ça avec votre père? Il y a toutes ces questions-là, mais qui sont, à mon avis, aussi qui font écho à des gens de cet âge-là, quoi. C'est-à-dire toutes les questions qu'on peut avoir par rapport à son éducation, ses parents. Mmh. Donc, généralement, c'est source de pas mal de questions. Et puis, au niveau historique et au niveau des écoles, je sais pas trop, je sais qu'il parle de la colonisation, mais je sais pas exactement en quelle classe, j'ai pas encore. Donc voilà, c'est un peu un va-et-vient entre ces questionnements-là. En tout cas, ce qui est sûr, ce qui est à la fois chouette et un peu frustrant, c'est que j'ai très rarement parlé de bande dessinée en parlant de ce livre. C'est à la fois chouette parce que on parle un peu de ce que je raconte dans le livre.
Ouais.
Et en même temps, c'est aussi lié, on parle pas beaucoup de bande dessinée parce que, comme je disais tout à l'heure, la culture générale sur la bande dessinée est quand même assez lamentable. Et donc c'est assez dur de parler de bande dessinée. C'est-à-dire comment on fait, comment ça marche. C'est un livre que sur lequel j'ai beaucoup travaillé avec de la doc iconographique, par exemple. Donc ça, c'est une porte d'entrée possible pour des discussions. Enfin, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait de travailler sur en tant qu'auteur de bande dessinée, sur des images, sur l'imaginaire collectif. Qu'est-ce que ça génère, les représentations qu'on a, qu'est-ce que ça a des répercussions de façon contemporaine, dans la façon dont on crée un ministère de l'identité nationale, par exemple. Est-ce que tout ça est lié ou pas?
Ouais. Ok. Et alors, plus à l'heure maintenant, en termes d'avenir, on va dire ça, c'est quoi un peu les projets? Donc on a parlé déjà au moins du livre qui va sortir là, au requin marteau, les affaires reprennent. Est-ce qu'il y a d'autres projets? Enfin, il y a Périscopage aussi qui est là, mais je veux dire des projets...
Personnels?
Ouais.
Alors j'ai un autre livre qui sort au requin marteau que j'ai évoqué vite fait avec ce vieux copain là, qui s'appelle Mon Couzeau, qui dessine, et puis Magali Arnal qui fait la couleur, qui lui s'appelle Santa Riviera, le venin des passions. C'est une espèce de mix d'hommage, je ne sais pas si c'est un hommage, mais de parodie, mais qui dérape un peu à des soaps brésiliens, saupoudrées d'un peu de Charles Bronson. Donc un truc assez que j'ai écrit dans la foulée d'Algérie, qui m'a fait beaucoup de bien pour changer de tonalité.
Oui.
Et aussi qui était très agréable à écrire, parce que comme je le disais tout à l'heure, le copain avec qui je l'ai fait, on se connaît depuis très longtemps, donc il y a beaucoup de choses qui sont très simples, on n'a pas besoin de s'expliquer les choses pendant 36 000 ans. Et ce qui était aussi très agréable pour moi en tant que scénariste, c'est que je savais que c'est un très bon dessinateur, donc j'ai pu aussi lui écrire différemment quand j'écris pour moi. Et ça, c'était une expérience assez intéressante. Je ne sais pas s'il y aura d'autres bouquins, mais c'est assez probable.
D'accord. Assez jouissif et assez délirant, sans doute.
Ouais.
Livre. Ok.
En termes de projet, j'en ai toujours plein. J'ai un petit dossier arlésienne sur mon ordinateur. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai un. Si, il y a un truc qui est un peu. Qui va me permettre de tester les choses. Je suis invité au lieu unique à Nantes au mois de septembre. En résidence. Ils ont une résidence qui s'appelle Chantier d'artiste. Je suis invité pendant 2 semaines avec la contrainte d'avoir un rendu public en fin de résidence. La contrainte étant de ne pas faire une expo de pages de planches de bande dessinée sur les murs. Donc là, je suis en train de réfléchir à ça. Ça me plaît bien. Ça, il y aura probablement des choses avec d'autres gens. Je vais inviter des gens.
Okay. Voilà. Et on a encore le temps pour la dernière question. Il y aura 3 minutes, je crois, plus ou moins. dernière question qui était en fait la première.
Sur les bouquins.
Voilà. Donc, quelle est un peu une bande dessinée marquante pour toi, soit celle qui t'a donné envie d'un jour passer le pas éventuellement du fanzine et de faire un livre, ou alors celle qui, peut-être ces 5 dernières années, t'as le plus bluffé. Enfin, ça, c'est sur carte blanche. Mais donc, si tu dois n'en citer qu'une, c'est toute la difficulté de l'exercice.
Alors, c'est en termes d'influence, c'est des choses qui remontent un peu loin, quand j'étais encore un peu malléable. Mmh. Et il y a notamment un bouquin auquel je pense et dont j'oublie toujours les auteurs, 2 auteurs américains, et c'est pas très grave. Et c'est Buck Rogers, qui est une grande édition chez Pierre Auret. C'est un bouquin que j'ai redécouvert, que j'avais chez mes parents en fait. Je crois que ça avait été offert par un de mes cousins de passage, pour remercier mes parents d'avoir été hébergés pendant un concours, dans je sais pas quelle fac, une histoire comme ça. Et je l'ai redécouvert il n'y a pas longtemps en réalisant que ce truc m'avait complètement impressionné. Donc c'est...
Au niveau graphique, au niveau de l'histoire.
Au niveau de l'histoire, il y a une espèce de truc. Le fait d'être happé dans une histoire, ce sentiment d'être happé dans une histoire. Après, c'est hyper raciste. En fait, j'ai réalisé en le relisant que les Mongols D'accord. sont les méchants.
D'accord.
Par contre, au niveau du graphisme, effectivement, c'est des petits traits que j'ai grand plaisir à faire dans mes dessins. Mmh. Je ne sais pas si ça vient de là, mais ce ne serait pas très surprenant. Même si mon esthétique n'est pas aussi clean que celle de Buck Rogers.
D'accord.
Et puis un livre peut-être plus récent, si aussi on parle en termes d'influence, de déclic peut-être, c'est un livre qui s'appelle Les Praticiens de l'Infernal, un livre de Pierre Lapolice, qui est paru, si ma mémoire est bonne, en 92, quelque chose comme ça, chez Jean-Pierre Faure, éditeur. Je connaissais pas le boulot de Pierre Lapolice à ce moment-là, je sais pas s'il publiait dans les Arocs déjà ou pas, peu importe. Mais en tout cas, quand j'ai lu ce bouquin, je me suis dit, alors c'est possible de faire un bouquin antique qui soit très cohérent, mais qui soit complètement barré. Quoi. Mmh. Voilà, ça a été assez libérateur comme lecture. Et j'ai grand plaisir à le relire assez régulièrement.
D'accord.
Voilà.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
On peut s'arrêter là.